Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RDIWA 107.5 et aussi sur internet www.rdwa.fr. Olivier de Sipibus au micro. Je continue donc mon cycle d'interviews d'artistes. Vous pouvez déjà écouter sur internet les artistes Elisabeth Cézlar et Émile. Alors pour l'instant, je me consacre aux artistes visuels. Donc plasticien, peintre, dessinateur, etc. Avant d'accueillir mon invité aujourd'hui, j'ai une petite annonce particulière à faire concernant Agnès, la conteuse Philomène, qui propose des contes chez l'habitant auxquels j'ai assisté le premier la semaine dernière. Si vous voulez donc avoir une conteuse qui anime une soirée chez vous et avec vos amis, vous pouvez téléphoner à Agnès au 06 70 82 97 02. 06 70 82 97 02. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, le grand bonheur d'accueillir Lynn Pook. Bonjour Lynn Pook.
Bonjour.
Lynn, tu es une artiste qui vit très dernièrement à Barnave et tu vivais jusque-là à Berlin.
Et Marseille.
Alors, tu as des attaches allemandes, je crois.
Alors, je suis franco-allemande, de mère allemande, ce qui m'a facilité la tâche à Berlin, où j'ai passé à peu près 10 ans. Je suis partie à Berlin faire les beaux-arts.
Et ce choix d'aller en Allemagne plutôt qu'en France, faire les beaux-arts en Allemagne, il y avait un choix délibéré ou c'était un choix de cœur
C'était un choix de cœur, mais j'ai aussi fait des études d'art en France avant, mais à la fac d'art plastique, j'ai fait une maîtrise et en fait j'avais envie de renouer avec ma partie allemande si on veut. Mm-hmm. Et j'avais l'impression qu'après Strasbourg et Paris, Berlin pouvait être... assez sollicitant. Mmh. Voilà, et comme je n'avais pas la barrière de la langue, je me suis présentée là-bas et je n'ai pas regretté.
Et tu as fait quoi comme étude à Berlin donc ?
Donc j'ai fait l'école qui s'appelle Kunsthochschule Berlin-Weißensee. C'est, en fait, il faut savoir qu'à Berlin, ben, il y a beaucoup de choses en double encore qui sont de l'époque des deux Allemagnes. Et donc moi j'étais dans la petite école de anciennement Berlin-Est, qui est beaucoup plus petite comparée à l'énorme UDK, Université der Kunst, qui est à l'ouest.
Et qui avait un caractère peut-être plus, je ne sais pas, expérimental ou
oui,
moins
c'était...
académique.
Je ne dirais pas forcément ça, mais en tout cas, il y avait un côté très familial. Je me suis tout de suite sentie à la maison. Après, je n'avais pas cherché à me renseigner sur l'autre école, en fait. C'est quelqu'un des Berlinois qui ont une maison à Barnave qui m'ont parlé de cette école. Et à l'époque, j'avais la nécessité ou l'envie d'apprendre des choses un peu plus traditionnelles, justement, parce qu'en fac d'art plastique, on parlait beaucoup d'art, mais on n'était pas beaucoup dans la pratique. Et du coup, j'ai voulu refaire vraiment un cursus depuis le début pour repasser par toutes ces choses comme... là-bas, on avait carrément des cours d'anatomie, de dessin d'anatomie, bon, histoire de l'art. Et puis... beaucoup de dessins d'observation, peinture,
finalement,
des bases.
Un académisme que l'on n'enseigne plus à l'école aujourd'hui, aux écoles de beaux-arts.
Voilà, peut-être. Qui a l'air de revenir après avoir disparu 10 ans.
Ouais.
Et en fait, ce qui était intéressant dans cette école de Berlin-Est, c'est qu'il y avait à la fois encore des enseignants donc, qui avaient vraiment connu la période de la RDA et puis qui avaient encore leur poste.
Qu'est-ce qui était intéressant ? Ils apportaient quoi en plus que...
Pour moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette école, c'était les rapports humains. Enfin, ouais. On sentait peut-être de l'ère socialiste un peu, ce côté pas élitaire, mais justement pas élitaire, mais d'un échange. Et ce que rendait possible cette petite école, contrairement à l'autre, c'est que on pouvait circuler d'une section à l'autre, d'un cours à l'autre. Moi, je m'étais présentée en sculpture, mais j'ai pu aussi aller suivre des cours en mode, en graphisme, voilà. Et chose qui, d'après ce que j'ai entendu, n'était pas possible dans la grande école, où tout était beaucoup plus cloisonné. Et moi qui suis un peu touche-à-tout, en fait, ça me correspondait très bien. Et en complément donc, de ces professeurs qui, justement, ont fourni des très bonnes bases sur les choses plus classiques, ce qui était ce que je cherchais. Après, les trucs un peu plus barrés, ça, j'en avais déjà, j'avais déjà pas mal. Mais après, il y avait, j'ai notamment étudié chez Ingemann, qui était une ancienne élève de Joseph Beuys, donc qui, elle, venait de l'Ouest, et qui avait une approche vraiment... à l'opposé du traditionnalisme et aussi un engagement politique. Enfin, c'est là où ça se rejoignait peut-être aussi l'Est et l'Ouest, c'est que finalement, il y avait cet engagement aussi politique intéressant. Voilà, et on a fait pas mal de projets dans l'espace public, beaucoup de travail dans le contexte, en fait. Souvent, on était, les professeurs recevaient des propositions, des offres de faire des choses avec des étudiants dans des contextes particuliers. Et donc, pendant mes études... J'ai notamment pris part à des choses comme ça.
Alors, j'invite encore une fois les auditeurs à réécouter l'émission et particulièrement Elisabeth Cieslar, qui a énormément travaillé en Pologne sous l'ère communiste et qui a fait beaucoup de choses dans l'ère publique, effectivement. Juste une curiosité, qu'est-ce qui décide qu'on fasse des études d'art jeunes, adolescents? Tu te souviens ou bon, bah, c'était comme ça
et... Alors, c'est pas forcément très glorieux dans ma décision, on va dire. Enfin, c'est un ensemble de choses. Bon, moi, j'ai grandi dans une famille de danseurs. Donc, j'ai pas mal baigné dans l'artistique.
Ah, donc il y avait...
Voilà, il y avait un peu un background, en tout cas danse contemporaine. Je pense que j'aurais volontiers été danseuse, mais comme la place était déjà comme un peu prise, et ma mère m'a pas du tout poussée à ça, parce qu'elle savait à quel point c'était difficile d'en vivre. Ouais. Et en fait, il y a une personne, Rolf, un vieux monsieur, qui s'est beaucoup occupé de moi quand j'étais petite et qui, lui, avait fait les arts déco à Strasbourg et qui était chef décorateur au Théâtre National de Strasbourg et avec qui j'ai beaucoup bricolé. En fait, on habitait chez lui et il m'a fait faire plein de bricolages, de dessins. Et je pense que c'est lui qui a vraiment ouvert ma sensibilité aux arts plastiques. Et puis, en fait, après, déjà pendant le cursus scolaire, j'étais intéressée par le cinéma aussi. Donc, j'ai fait je suis allée exprès dans un lycée semi-privé où il y avait à l'époque les A3 cinémas. Donc là, je me suis sensibilisée à l'image, à la vidéo. Et en parallèle, je suivais parce que j'aimais beaucoup dessiner, je suivais des cours du soir... de dessin de nu à la fac d'archi et aux arts déco, je suivais aussi des cours du soir. Voilà.
Tu nous as parlé de tes études. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sort des études, qu'on a un diplôme
En fait, moi j'ai eu la chance de, pour mon diplôme, faire des projets audio-tactiles, ce qui m'a permis de directement avoir un pied dans le monde professionnel, même un petit peu rémunérateur. Par contre, je ne suis pas rentrée tellement dans le monde des galeries, mais plus dans le monde des festivals de musique électronique, musique expérimentale et art numérique. J'ai eu cette grande chance de ne pas tomber dans le trou d'après.
C'était quoi le trou d'après ?
Non, pas le trou, mais contrairement, je pense, à beaucoup de personnes avec qui j'ai étudié, je n'ai pas été dans l'obligation de faire des petits boulots à côté. Parce que, en fait, j'ai tout de suite été invitée dans des festivals. D'accord. Où j'ai été rémunérée un peu comme plutôt quelqu'un du spectacle vivant, même s'il n'y avait pas l'intermittence, puisque de toute façon, j'étais en Allemagne. Mais voilà, donc il y avait une possibilité de gagner 3 sous avec ça, ce qui est en galerie n'est pas forcément le cas, parce que malheureusement, ce n'est pas parce qu'on expose qu'on vend. Et voilà, et souvent, les expositions coûtent beaucoup d'argent à l'artiste plutôt que ça n'en rapporte. En tout cas, en dessous de 50 ans, en général, c'est un peu ça.
Bon, il faut arriver aux 50 ans.
Voilà, le cap, peut-être à 45, on y arrive déjà.
Finalement, l'audio-tactile, cette rencontre de l'audio-tactile que l'on va largement évoquer, le moment initiateur, c'est quand ?
Je suis encore pendant mes études. À Berlin, dans cette école soi-disant assez classique, on a eu justement des intervenants, notamment de la radio, du Hörspiel, mais qui sont dans la radio expérimentale, qui est assez développée en Allemagne, donc qui n'est pas une radio de l'information ou du reportage, mais où c'est vraiment plutôt vraiment du sonore, de la matière sonore. Dans ce cadre-là, j'ai commencé à enregistrer des sons, à m'intéresser aux sons. Et là, je vais faire des sauts en avant, en arrière, donc ça va aller, mais vous allez m'en sortir. En fait, tout mon travail est toujours centré autour du corps, de la perception. Donc ça, ça vient sûrement un petit peu du background de danseur, d'avoir pas mal trempé dans le mouvement. Ce qui m'intéressait, c'est un fil rouge aussi que j'ai mis du temps à découvrir moi-même en regardant ce que j'avais fait.
Oui,
je me rendais compte que j'essayais toujours de mettre le spectateur dans une situation particulière d'écoute, et que cette œuvre, enfin que l'œuvre que je proposais finalement, c'était quelque chose qui amenait aussi le spectateur à une auto-réflexion. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi? Qu'est-ce que je suis un être curieux? Enfin, moi, je m'adresse beaucoup à cet être curieux.
Que l'on est.
Moi,
ou
y
que
compris.
L'on cache. Que l'on cache ou
ouais,
quelque
pas,
chose
moi,
de l'intimité quand
trop.
Même.
Oui, mais il y a quand même d'abord ce geste d'aller voir, d'aller écouter, d'aller sentir. Donc assez rapidement, en fait, j'étais partie à Berlin pour apprendre des techniques, notamment la taille de pierre, ce qui n'est jamais arrivé. Parce que très rapidement, je me suis de nouveau adonnée aux matériaux souples, à la vidéo et au son. Le premier travail que j'ai fait au niveau sonore, c'était en collaboration avec une amie qui avait fait des objets en plâtre, c'était comme des œufs géants, qui étaient très fins et on s'était rendu compte, en les ayant dans l'atelier, que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de les toucher. Parce que, bon, d'abord, ils étaient magnifiques, c'était vraiment comme un œuf de poule, mais...
Ils sont gros, j'ai vu les
gros.
Photos, c'est assez incroyable d'ailleurs.
Voilà.
Ouais, très beau.
En fait, ils sont faits dans des ballons de baudruche, donc ils ont la taille comme les différentes tailles qu'on peut avoir avec des ballons de baudruche. Et les gens ne pouvaient pas s'empêcher de les soulever pour savoir s'ils étaient vides ou pleins. Du coup, on avait vu un appel à candidature qui traitait de la thématique de la violence. Et moi, j'avais proposé à cette amie qu'on fasse quelque chose sur la violence, la violence plutôt cachée, c'est-à-dire le fait de vouloir posséder quelque chose, ça peut être aussi une personne, et du coup de l'écraser. C'était plutôt de l'ordre de l'écrasement. C'est le trop qui écrase l'autre,
voilà.
C'était un peu ça.
D'accord, okay.
Et du coup, on avait fait une installation qui était composée d'une centaine de ces œufs, et moi j'avais fait un travail.
Donc des gros œufs qui sont gros comme un ballon de baudruche, hein,
voilà.
Cette taille-là,
ouais,
blanc.
Blanc, en plâtre, et qui était disposé dans un espace d'un soubassement en fait, de ce lieu assez alternatif en Tchéquie. Moi, j'avais disposé des petits haut-parleurs cachés. Il y en avait 6 qui avaient chacun un canal, donc pas stéréo, mais 6 pistes, où il y avait des voix enregistrées en tchèque et en anglais qui incitaient à toucher, ou qui soit ils invitaient à toucher ou à ne pas toucher, parfois avec l'ambiguïté qu'il peut y avoir là-dedans. Donc il y avait un côté aussi presque érotique, puis il y avait quelque chose de sexuel, il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'interdiction de toucher qui quand même jusqu'à maintenant est très présente dans les arts plastiques où il y a écrit, enfin il faut,
oui,
quand on va dans un musée et qu'on essaye de toucher en général,
même si elle est en bronze, on ne peut pas la toucher.
Voilà. Donc voilà, c'était cette chose-là. Et du coup, ça remettait de nouveau en jeu aussi la position et le rôle du spectateur là-dedans. Et en fait, les gens se sont donnés... c'était fou de voir en fait comment la joie qu'ils avaient à casser ces œufs. Quoi.
Ah oui, il y a eu de la casse.
Ah oui, il y en a, ils se les lançaient, puis ils essayaient de voir jusqu'à quand ça allait craquer. Mais bon, c'était on s'attendait à ce que... Voilà, on invitait les gens à toucher, donc c'était les risques à prendre.
Et là, le lien avec l'audio tactile ?
Donc là, c'était pour dire que déjà là, en fait, c'était le toucher. Il y avait
toucher.
Déjà cette chose du toucher qui était apparue. Quelques mois plus tard, à Germay, j'étais avec un ami et on écoutait des enregistrements sur un tout petit haut-parleur. C'était des bruits de cochon en fait. Ça n'a rien à voir avec l'audio tactile, mais malheureusement l'histoire n'est pas très sexy, mais c'était des bruits de cochon que j'avais pris dans une ferme d'Emeter en Allemagne. Et en fait, le copain s'est mis le haut-parleur sur le bras et il me dit, tiens, c'est rigolo, ça chatouille. Et je me le suis mis sur le bras aussi, puis j'ai dit, ah, oh, c'est génial, il faudrait s'en mettre partout. Et en fait,
c'est
ça que l'audio tactile est né, en gros.
Merveilleux.
Et donc, j'avais tout de suite l'envie qu'il y ait plein de sources sonores et tactiles sur tout le corps, et que ces sources soient dissociées, c'est-à-dire que chaque point, je puisse le commander individuellement.
Voilà. On va écouter...
Donc, on va écouter un petit peu de son qui a été réalisé essentiellement par Julien Clos, avec qui j'ai collaboré sur les 2 derniers projets audio tactiles, notamment. Je pense que je vous en dirai un petit peu plus après. Alors, il faut juste, je vous dis quand même une chose. Cette musique-là, normalement, Alors oui, on peut l'écouter en stéréo, mais il faut s'imaginer que là, c'est des sons qui se promènent sur le corps et qu'on entend de l'intérieur et qu'on sent comme vibration. Mais je vous expliquerai plus en détail l'audio tactile après. Voilà, bonne écoute.
Un peu la situation.
Alors
où là, on est et comment on est.
Alors là, en fait, on commence par le dernier projet audio tactile. Là, ça fait encore pas mal de bruit, mais ensuite ça va passer dans une. Vous verrez, il y a un peu un passage un peu différent. Donc je vais juste expliquer ce que c'est que l'audio tactile et après je vous expliquerai la situation particulière de stimuli. Donc l'idée de l'audio tactile, vous aurez compris tout à l'heure avec le petit exemple des cochons, c'est que, en fait, le son, c'est de la vibration. Et du coup, une source sonore posée sur la peau devient quelque chose qu'on ressent au niveau vibratoire. Et donc moi, en commençant sur mes premiers essais, je me suis rendu compte que quand je me bouchais les oreilles, j'entendais mieux ce son diffusé sur la peau que quand j'avais les oreilles ouvertes. Et en fait, ça c'est un phénomène, ça fait pas mal du tout, c'est un phénomène qu'on a en permanence, c'est ce qu'on appelle l'écoute par conduction osseuse. Le premier exemple, c'est votre voix. En fait, notre propre voix, on l'entend à 70% à peu près par l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une architecture,
c'est une caisse.
Donc après on parlera aussi d'une autre architecture, oui. Mais c'est une caisse de résonance, si on veut. Et comme vous savez, chaque corps, alors là je parle de corps, ça peut être un bout de bois, un instrument de musique, un rail de chemin de fer, il a des propriétés physiques particulières et notamment des propriétés acoustiques, c'est-à-dire comment le son va se propager dans cette matière. Dans l'eau, par exemple, il se propage beaucoup plus vite que dans l'air. Ça a pour conséquence de modifier un peu la perception du son, qui va être filtré différemment. C'est-à-dire qu'il va avoir plus de graves, plus d'aigus, il y a certaines fréquences, bandes de fréquences qui vont être favorisées par rapport à d'autres. Et en fait, ce qui se passe dans l'écoute qu'on propose, alors je dis « on » parce que l'audio tactile, c'est devenu aussi un binôme avec Julien. L'écoute qu'on propose là, c'est assez proche finalement d'une écoute qu'on peut avoir quand on a la tête sous l'eau, dans la baignoire, ou que peuvent avoir par exemple les fœtus. Voilà, donc c'est vraiment particulier. Du coup, il faut imaginer donc les dispositifs audio-tactiles, il y en a eu plusieurs. Il y a eu à fleur de peau, qui est le premier. Ensuite, il y a eu Apsium, qui est un hamac. Ensuite, il y a eu une deuxième série de hamacs qui s'appelle Pause, et puis Stimuline, et puis d'autres petites choses entre-temps. En moyenne, il y a entre 14 et 16 haut-parleurs, petits haut-parleurs qui font 30 grammes, qui sont disposés de la tête aux pieds. Et ce n'est pas des haut-parleurs classiques, c'est en fait seulement un morceau du haut-parleur, ce qu'on appelle le transducteur, le vibreur, qui se trouve en dessous du cône et de la membrane. En fait, ces haut-parleurs, ils ont la particularité, quand on les tient dans l'air, qu'on va pratiquement pas les entendre. Ils ont besoin d'une caisse de résonance. Donc, par exemple, déjà rien que de poser une feuille de papier dessus, eh ben, le volume sonore d'un seul coup va augmenter, ou si on le pose sous une table, ça va augmenter. Donc voilà, ils mettent en vibration un objet et qui devient l'objet qui projette le son dans l'espace. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on projette le son dans le corps et le son remonte plus ou moins à l'oreille, qui est quand même située au niveau de la tête. Donc ça vient directement à l'oreille moyenne. Et en même temps, on a ces stimuli tactiles, vibratoires, qui se promènent sur le corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mono, on n'est pas en stéréo, comme ce qu'on a habituellement. Maintenant, il y a le 5.1 ou des choses plus
complexes. Alors, est-ce que je peux rajouter la situation, c'est qu'on a des espèces, on enfile des espèces de manchons.
Oui, alors attends, ça j'y viens après. Parce que là, je décris juste le principe d'écoute.
D'accord.
Et ensuite, il y a différents dispositifs, et notamment dans Stimuline, qui est le plus gros projet audio-tactile, qui est un projet de concert audio-tactile, alors qu'avant, c'était des installations avec des pièces précomposées. En fait, là, comme Julien vient de la musique live électronique, on a eu envie de développer une version concert aussi pour pouvoir travailler sur une durée plus longue, puisque les pièces avant étaient 10 minutes dans les installations. Et donc, dans Stimuline, une grosse partie du travail, c'est comment est-ce qu'on met ces haut-parleurs sur le corps des gens, parce que c'est quand même assez particulier. Et donc, on a travaillé avec une designeuse, Sarah Veillon, qui est sur Marseille, et on a développé des espèces de combinaisons assez rétro-futuristes, on va dire, en textile marron qui couvre, il y a les manches. Après, c'est plus comme un exosquelette, c'est-à-dire que ce n'est pas une combinaison entière, c'est évidé pour pouvoir l'adapter à toutes les tailles de gens. Donc il y a des questions vraiment de design qui se sont posées à nous. Et en fait, donc c'est les gens, dans l'espèce de rituel, si on peut parler ainsi, donc le public arrive, on les accueille, on a un petit groupe de 5-6, on les accueille, on leur demande d'enlever les chaussures, d'enlever les gros pulls, les vestes, et on les aide à enfiler ces drôles de combinaisons. Ça prend à peu près 5 minutes. Et ensuite, ils entrent dans l'espace où il y a dans un espace où il y a une trentaine, 28 matelas, des petites mousses rouges où les gens peuvent venir s'allonger. Et au centre de ces trois cercles, normalement, il y a à chaque fois une espèce de centrale assez. C'est plein de câbles. En fait, nous, c'est juste un objet technique qui nous permet de décupler les canaux, c'est-à-dire de pouvoir envoyer à 30 personnes en même temps les mêmes 15 canaux sur le corps. Donc c'est assez lourd techniquement, mais ça donne une image assez belle. Et en fait, donc ça, c'était c'est le boulot de Julien. Chaque fois, il va brancher chaque personne un peu au niveau du nombril. Il y a une prise qui permet du coup de rattacher le corps à ses centrales. Ça rappelle un petit peu le film Existence.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et puis une fois que tout le monde est équipé, on commence nous on s'équipe aussi, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on joue, c'est du live. On démarre le concert qui est vraiment plongé dans le noir, en fait, pour vraiment orienter l'écoute et l'attention sur cet espace du corps. Et oui, aussi les gens mettent des bouchons, donc ça, il faut pas oublier, c'est vraiment un élément important. Et la particularité aussi de ces concerts audio-tactiles, et quelque chose qu'il n'y avait pas dans les installations, c'est qu'on a rajouté aussi un système sonore extérieur qui permet de travailler dans des volumes sonores beaucoup plus gros, qu'on connaît des musiques amplifiées. Donc il y a de quoi faire des basses qui remuent. Donc on passe là des volumes sonores qui vont jusqu'à 100 dB ou plus, si on a le droit, mais comme les gens ont des bouchons dans les oreilles. Et donc on fait un savant mélange entre... Donc il y a des parties où c'est joué que sur le corps. Donc ça, c'est des haut-parleurs qui ont 30 grammes, donc c'est vraiment pas des volumes sonores forts. C'est un petit peu... Ça fait penser un peu à la sensation de votre téléphone portable qui vibre, en gros. C'est un peu ça, au niveau du volume. Et puis, on a des passages comme, en fait, l'extrait qu'on vient de vous faire écouter. On sent qu'il y a une espèce de masse sonore comme ça. Et ça, c'est un passage où on commence donc avec que du son sur le corps. Et très doucement, Julien vient remplir l'espace avec tout le spectre sonore. Et à la fin, les gens sont... Ça met à peu près 10 minutes pour monter. Donc à la fin, on est vraiment dans un volume sonore. On a l'impression d'être dans la tête dans un réacteur d'avion. Et l'image est très belle. Il n'y a que nous qui la voyons. Il y a ces 30 personnes qui sont allongées hyper relax dans un bruit monstrueux.
C'est un bain de son.
Voilà, ouais. C'est vraiment un bain de son. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne se rendent pas compte qu'à un moment, il y a du son qui vient aussi de l'extérieur. C'est-à-dire, quand on est bon sur le live, il y a vraiment un équilibre qui se crée entre l'intérieur et l'extérieur. Et la dimension qu'on voulait amener en plus dans les concerts, c'était de...
C'est-à-dire que vous diffusez, vous, par haut-parleur extérieur, externe,
et
c'est
intérieur.
Ça et intérieur, d'accord,
ouais.
Ok.
Et intérieur, et on trouve des espèces d'équilibre. Il peut y avoir les outils que Julien a développés dans Max MSP, en fait, permettent de vraiment spatialiser très précisément, c'est-à-dire de dire où passe le son. C'est-à-dire, il va passer dans le pied, dans le genou, dans la hanche, dans la main, et hop, là, on le fait sortir. Il va faire un tour dans l'espace et il va revenir, en gros.
Le fameux Max MSP, c'est le troisième larron de l'équipe.
Ouais, c'est ça, c'est un programme.
Voilà, c'est un programme informatique que beaucoup d'artistes sonores utilisent. Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas supporté, qui ont arrêté, ou des phénomènes de rejet, ou des gens qui sont anti-malades ou mal? On se sent comment après une séance?
Ouais, alors il y a... La majorité des gens se touchent plus trop le sol. Ils se sentent plutôt très bien, hyper relaxés. Ça a vraiment quelque chose d'un massage. Mmh. Et il y a une minorité de gens qui arrêtent. Mmh. Ben, eux, en général, c'est une réaction... On peut parler de réaction épidermique.
Oui, c'est très rapide.
Qui s'arrêtent au bout de 3 minutes, ouais, quoi. Qui disent non, je peux pas, ouais, mais ouais. Qui ont peut-être des soucis de claustrophobie ou des choses comme ça. Souvent, ce sont des personnes qui ont un passé médical lourd, c'est-à-dire où il y a une mémoire qui n'est pas consciente, d'ailleurs, forcément, mais qui remonte d'un seul coup et qui rappelle à des trucs, voilà, des sons hein, qui sont passés dans le corps. Parce que quand on vous fait de la chirurgie sur le corps, tout le monde connaît le dentiste. Le son, je pense que si le dentiste ne faisait pas de bruit, ce serait beaucoup plus agréable. Voilà. Et donc... oui, on a donc des réactions, mais on a aussi des réactions positives, très positives, de gens qui avaient mal au ventre avant ou mal à la tête, qui ressortent sans mal. Ou là, carrément, des personnes aussi... Moi, j'ai eu une fois cette expérience avec une dame au Québec qui avait vraiment... elle avait une jambe plus courte, elle était toute vrillée et toute...
Et la jambe a repoussé dans la...
Non, la jambe n'a pas repoussé. Mais en fait, en 10 minutes d'audio tactile, elle me dit, normalement, je dois faire une heure et demie d'exercice de kiné pour trouver cette relaxation, cette détente. Et là, ça va super vite.
Donc, et justement, vous n'avez pas été, contacté par un thérapeute adapter ça éventuellement à une thérapie.
Alors on a eu dans nos publics des ostéopathes, des kinés, des psychologues, des psychothérapeutes, des gens qui font de la thérapie par le son, toutes sortes de personnes. Ouais. Oui, on a eu beaucoup d'encouragement en fait à aller dans cette direction thérapeutique, et c'est un chemin que je vais engager là en 2012-2013 avec un.
Mais c'est le chemin de l'art en général.
Peut-être, oui, mais ça, je pense, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais voilà.
Pour les artistes, en tout cas.
Ah, tu veux dire que ça nous soigne, nous ? Moi, je suis pas sûre que ça me soigne, mais bon. en fait, moi, malheureusement, ça me fait pas l'effet relaxant d'être dans mes installations, parce que je suis tout le temps en train de dire « Ah, mais là, il faudrait changer ça. » Voilà, moi, je travaille. Ouais.
Pour continuer sur l'architecture sonore, on va écouter un petit morceau de musique qui n'est pas de toi.
Oui, voilà, j'avais envie de vous présenter, en fait, c'est des artistes que j'ai rencontrés au Québec, parce qu'on ne connaît pas beaucoup l'art sonore, et c'est pourtant un domaine des arts plastiques ou du son, c'est un peu un domaine entre les chaises. Et en fait, ce que je trouvais... Tout à l'heure, je parlais d'architecture du corps, et là, en fait, ces personnes ont utilisé un ancien silo, enfin, c'est des silos à grains qui se trouvent à Montréal. Et ils ont appelé ce projet Silophone. Je pense qu'en milieu rural, tout le monde voit un peu ce que c'est un silo. Là, c'est des silos en béton énormes. Et ils ont fait descendre des haut-parleurs et des micros dans ces silos. Et ils ont finalement exciter, on va dire, exciter ces architectures qui ont des acoustiques, des résonances incroyables, pour les faire devenir des instruments. Alors vous allez voir, c'est assez planant, et notamment ça utilise le phénomène de Larsen qui est beaucoup beaucoup utilisé en musique expérimentale. C'est-à-dire que on enregistre un son, on le rediffuse dans le même espace et ça commence à faire une boucle en fait et à sonner, c'est ce qu'on entend là. Voilà, je vous laisse un petit peu écouter, c'est assez planant. Ces artistes et leur groupe, c'est The User. Ça s'appelle Abandon, l'album. Et si ça vous intéresse d'entendre un peu plus ce projet, en fait, il y a un site web, donc www.silophone.net.
Donc là, c'était, on a passé ce morceau pour illustrer comment d'autres artistes s'emparent de cette question de l'architecture sonore que toi, tu investis sur notre propre corps. Et eux, par contre, c'est une architecture, un instrument. Ils utilisent donc des silos et donc c'est immense et c'est un autre instrument, une autre dimension. Voilà. Aujourd'hui, tu habites à Barnabes depuis, je crois, un an.
2 ans même.
Et tu continues ton travail d'artiste qui prend pas des nouvelles voies, parce que c'est toujours une continuité, mais sur quels travaux tu te consacres maintenant ?
Alors, donc en tâche de fond, il y a toujours l'audio tactile qui se trame. Sinon, j'ai plutôt des travaux en cours. Je suis un peu lente, donc notamment un travail. Enfin, j'avais envie toujours de m'approcher des gens. C'est toujours un peu ma fixette. Et après ce travail audio-tactile qui a demandé beaucoup de boulot tout seul, j'avais envie d'aller à la rencontre de gens, d'être dans une pratique un peu plus légère, moins lourde à produire. Et j'ai commencé à.
Oui, parce que, enfin, je te coupe, excuse-moi, mais l'audio-tactile, c'est un gros bidule. Hein.
Oui, c'est un gros bidule, on peut dire ça, ouais. Bah, juste pour stimuler, on a mis 3 ans à trouver les sons.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais.
C'est des concerts pour 27 personnes, c'est pas hyper vendeur, on va dire. Voilà. Même si ça plaît à tout le monde, hein. C'est presque du 100% de happy, des gens qui sont contents, mais bon, actuellement, la situation économique n'aidant pas. Ouais. Voilà. Donc, je suis partie sur des envies de rencontres, et notamment, je suis partie aussi sur une pratique... que j'appelle pratique du lien, qui est une pratique assez ancestrale, celle du nœud, qu'on retrouve dans toutes les techniques de vannerie, de tricot, de crochet, d'ouvrage de dames et tout ça. Et j'ai eu envie d'aller à la rencontre de personnes qui font encore ces ouvrages de dames. Il se trouve que c'est essentiellement des dames. Je cherche les hommes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai commencé une série d'interviews dont j'ai une trentaine. Maintenant, le protocole est le suivant. Je contacte souvent par personne interposée. Je dis, t'as pas une grand-mère, t'as pas un oncle, t'as pas une tante, t'as pas quelqu'un qui tricote autour de toi. Puis comme ça, je rencontre des gens. Et pendant la rencontre, je leur propose de réaliser un petit échantillon d'ouvrage, mais pas comme d'habitude en textile, mais en fil de cuivre, donc qui est aussi justement le fil qui permet de passer le son. Donc j'ai toute une collection de fils de cuivre qui sont gainés de plastique coloré, tout ça, donc on a un peu le même choix qu'en laine. Et pendant l'entretien, la personne essaye de dompter ce matériau pas évident et d'en faire une petite pièce qui ensuite servira à passer l'interview. C'est-à-dire que de l'autre côté du tricot, moi je mettrai un petit haut-parleur et le son de la personne passera à travers ce tricot. Et l'idée, c'est de collecter plein de témoignages, de paroles, d'en faire un patchwork sonore. Donc moi, mon boulot après, c'est un gros boulot de montage de son de tous ces témoignages, et de faire aussi, de créer un objet à partir de tous ces petits objets que les personnes m'auront fait.
Et les témoignages, c'est quoi? Alors, témoignent de quoi?
Les témoignages, en général, c'est vraiment, je pars de la pratique du tricot, enfin de ça, et du coup, j'essaye de... En général, ça fait partie des choses qui sont en transmission orale, c'est-à-dire qu'on a appris ça de quelqu'un d'autre. Et ce qui m'intéressait, c'était finalement le tricot, c'est une espèce d'alibi pour aller découvrir au cours des boucles l'entourage de cette personne. Et en général, donc, je leur pose des questions du genre qui est-ce qui vous a appris, quelle est votre première pièce que vous avez fait, est-ce qu'il y a quelque chose, un truc qui vous reste en mémoire particulièrement. Donc souvent ça va être j'ai fait quelque chose pour la naissance de mon enfant, pour moi c'était important que ce soit moi qui ai fait ce vêtement, enfin, et en fait ça brode dans la vie de ces gens là et ça montre des liens qui sont plutôt des liens proches, et pour moi c'était une envie de m'intéresser à ces liens proches, un peu en opposition au réseau plus distendu et plus vaste et plus rapide de l'Internet et des technologies. Voilà, c'était toujours ce truc de rentrer dans l'intime. Enfin, l'Internet aussi, c'est justement, enfin, c'est une possibilité de présenter son intime au monde. Et voilà, donc pour moi, c'est un travail qui est vraiment en lien avec les questions technologiques actuelles, mais qui du coup va plutôt chercher dans des pratiques anciennes.
Ouais. Et tu as une idée du rendu plastique
J'ai pas encore vraiment d'idée. Ça va être un peu comme je voulais m'inspirer du patchwork, puisque le patchwork, c'est vraiment aussi cette idée qu'on fait à plusieurs. Enfin, ça a pu être ça, qu'on faisait à plusieurs une pièce entière. C'est plein de pièces rapportées. Par contre, mon boulot, ça va être de faire le lien, c'est-à-dire de tricoter entre. Mais réellement, parce que moi j'avais commencé aussi avec des projets de tricot de fil de cuivre.
Cette histoire de tricot, de lien, et ton intérêt pour les autres artistes, tu l'as eu dans un événement qui s'est passé ici à Barnave pendant 2 ans,
ouais.
Ou disons 3, mais le numéro 0, enfin il y avait un numéro 0 qui était expérimental, et qui s'appelle « Laissez le passage libre ». Un événement qui passait au mois de juillet, que tu as organisé avec Julia. Et vous invitiez donc des artistes. Je parle au passé parce qu'il y a l'interrogation sur le futur. C'était un moment très... J'y ai un peu participé, donc très réjouissant. Et vous avez investi donc Barnave et le territoire autour... d'artistes sonores. Mm. Là aussi, c'est une histoire de lien.
Pour moi, au départ, la mise en place de ces rencontres, laisser le passage libre rencontre d'art en marche, on avait appelé ça, c'était de faire le lien entre le milieu professionnel qui est plutôt urbain dans lequel je travaille et le milieu rural qui était donc Barnave, le lieu que j'ai choisi comme lieu de vie, et de créer un espace-temps dans l'été où on faisait venir des personnes, au départ c'était vraiment des artistes amis, des artistes étant devenus amis, qu'on a rencontrés au cours des tournées et tout ça, dont on aimait les pratiques, qui pouvaient aussi bien être du sonore que de la performance, que des plasticiens, du dessin, c'est vraiment interdisciplinaire, et de leur proposer un contexte, complètement fauché, c'est-à-dire c'est ça aussi le contexte, c'est pas seulement le terrain de jeu, c'est-à-dire là un milieu du diwa, de la nature, tout ça, donc de les sortir un petit peu de leur, de la ville, mais c'était aussi, voilà, travailler sous contrainte, c'est aussi travailler avec pas d'argent, avec, enfin, on est beaucoup habitué à cette contrainte d'ailleurs, mais voilà, et de jouer le jeu, d'être là vraiment dans la rencontre. Donc on n'appelait pas ça festival parce que les gens venaient pas avec, normalement s'ils jouaient bien le jeu, ils venaient pas avec une chose finie, mais c'était vraiment cette idée de développer quelque chose sur place, in situ, éventuellement avec des rencontres spontanées faites sur place. Les présentations publiques avaient lieu pendant une semaine, enfin plus d'une semaine, fin juillet. Et par contre, les artistes étaient déjà là, pouvaient déjà être là avant et pouvaient même venir en résidence chez moi. Et ensuite, il y avait un programme assez touffu.
Touffu, tout flamme.
Ouais, touffu, tout flamme, de choses un peu surprenantes et pas forcément spectaculaire.
Disons que l'avantage de le faire non financé, parce que finalement c'est ça, hein, c'est de votre propre initiative, des artistes viennent et consentent à participer à ces rencontres. S'il n'y avait pas de rémunération, il y avait au moins la liberté, je crois, en tout cas.
Oui.
Et donc on a pu assister à des moments où certaines personnes venaient proposer un travail, une expérimentation au public, qu'il est parfois assez compliqué et dur à le faire dans un dispositif plus encadré,
plus
officiel de résidence. Oui, c'était ça aussi que j'ai eu l'impression que vous recherchiez, qu'il n'y ait pas cette contrainte d'un rendu fini, valorisable, valorisant pour chacun.
Parmi les artistes qui étaient là, il y avait des gens qui tournent beaucoup et qui sont connus. Et puis, il y avait des gens aussi qui ne sont pas forcément connus, mais qui pourraient tout autant l'être, qui ont des travaux intéressants. Et c'est ça aussi, c'est de mélanger des milieux, de finalement donner des espèces de cartes blanches. Aussi, il y a des gens justement qui sont connus, qui ont des contrats, il faut toujours qu'ils produisent des choses. Puis souvent aussi, quand on a été reconnu pour une chose, on nous demande même chose. Et donc là, en fait, ils venaient essayer des choses et voilà, c'était, y avait aussi possibilité de cassage de figure. C'était compris dans le pack. Bon, comme on payait pas trop cher en tant que public, c'était pas grave. Mais voilà, c'était aussi faire participer finalement le public à ça, à l'élaboration, et puis d'avoir un moment d'échange pour pouvoir parler. Parce que souvent, en tant qu'artiste, on montre un truc, puis... Ok, ben, dans le spectacle vivant, les gens applaudissent. Dans les galeries, souvent, ben, y a un jour où on nous dit des choses. En général, tout le monde dit « Oh, c'était super !» Et puis là, en fait, on avait envie que ça dépasse un peu ça. Et puis que juste les gens, au cours d'une balade aussi, ben, parlent de ce qu'ils ont vu, que ça germe. Enfin, y a plein de métaphores, justement, agricoles. voilà. Et puis notamment... dans le changement de contexte aussi, c'était proposer des choses un peu hors format et d'aller dans la montagne carrément, sur les plateaux, faire 24 heures de son. On avait monté une radio de plein air et il y avait des artistes qui se relayaient pendant 24 heures et un public qui venait avec sa radio. Et c'était ça le système son, donc on n'est pas du tout aussi d'essayer de pas être non plus totalement intrusif. C'est pas un technival. Il y avait de la musique électronique expérimentale, mais on va dire plutôt comme ce que vous entendez un peu en fond. Voilà.
Et donc ce qu'on entend en fond.
Voilà, ce qu'on entend en fond, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est des Autrichiens qui s'appellent Radiant et que je trouve intéressant. C'est un mélange entre de l'acoustique, des instruments acoustiques et de l'électronique. C'est un mélange entre des choses très planantes et noisy, ambiantes, qui sont pas dansantes. Puis d'un seul coup, il y a du rythme qui rentre et voilà, j'aime bien. Bonne.
Nous allons nous quitter là-dessus. Merci Lynn pour d'être venue ici.
Merci Olivier.
Et la prochaine fois, ce sont des interviews non réguliers. Mais je pense pouvoir annoncer que mon prochain invité sera Paca Sanchez, une artiste qui habite à Sainte-Croix, qui fait des compositions extrêmement fines, parfois très petites et très grandes, avec des éléments de la nature. Voilà. Merci, à bientôt.
Merci.